Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un peu une inquiétude, pour ne pas dire un stress, lorsqu'on est ici. Non pas parce que vous m'impressionnez, vous le faites, mais quand on part de la parole, on doit être prudent, on doit être sage et rempli d'esprit. Tu peux lancer, s'il te plaît. Ça va être les trois diapos qui vont passer sont peut-être le titre de quoi nous allons parler. D'abord, qu'est-ce qu'une église locale? Être membre d'une église locale, est-ce nécessaire ou facultatif? Et à quoi cela nous engage? Prions. Seigneur, ce sont des questions, des thèmes dans lequel nous sommes pleinement concernés, parce que cela consiste à... nous sommes dans ton Église, Seigneur. C'est toi qui as institué l'Église, et c'est toi qui nous as appelés pour en être des membres. Ce n'est pas une question que nous voulons traiter à la légère, et ta parole le prend très au sérieux. La Bible est très claire à ce sujet, et toi-même, lorsque tu étais sur terre, tu as vraiment enseigné à tes apôtres et à tes disciples ce qu'était le royaume, ce qu'était une église, et Seigneur, nous voulons profiter de ton enseignement. Merci parce que tu es un Dieu qui te révèle à nous et qui nous permet de vivre de la façon la plus en adéquation avec ce que tu veux, avec ta sainteté. Mais aussi merci pour ton amour, pour ta parole. Et que ton esprit nous dirige tous, ouvre nos cœurs pour non seulement avoir les bons mots, mais ensuite avoir un cœur ouvert et qui va entendre et écouter et comprendre et mettre en pratique. Amen. Alors le bâtiment dans lequel nous sommes réunis ce matin, frères et sœurs en Christ, c'est une enceinte que nous appelons une église locale, en opposition à l'église universelle qui est l'ensemble des chrétiens qui est sur la terre. Des chrétiens passés, des chrétiens présents et des chrétiens à venir. Et la Bible nous dit que les églises locales existent pour manifester la gloire de Dieu aux nations. Ce n'est pas seulement un endroit abrité pour être au chaud quand il fait froid ou être à l'abri de la pluie. L'église locale existe pour manifester la gloire de Dieu aux nations. Et en tant que chrétien, appartenir au corps de Christ dans une église locale, ce n'est pas un simple détail de la vie chrétienne. Au contraire, Christ ne nous appelle pas à devenir membres d'une église, mais à nous soumettre à l'église. Revenons sur ce mot « soumettre », « soumission ». Dans le sens de la Bible, c'est se donner de bon gré, c'est s'offrir avec bonne volonté. Et nous utiliserons aussi le terme d'adhésion ou d'adhérer dans le même sens, c'est-à-dire s'offrir, se donner de bon gré, s'offrir avec bonne volonté. Maintenant, il y a un mot que vous ne connaissez peut-être pas, parce que nous sommes peu à avoir pratiqué le latin, c'est le mot « imperium ». Alors, « imperium », c'est un mot latin qui est dérivé de l'adjectif « impérial ». « Impérial », ça nous, on comprend un peu mieux ce que c'est. Et « imperium » signifie « pouvoir suprême ou domination absolue ». Il indique qui exerce autorité dans une société et quelle est l'autorité à laquelle doivent répondre toutes les autres autorités. Celui qui en a le titre, l'impérium, peut littéralement faire tomber des têtes sans menace de représailles, parce qu'il est compris, parce que cela est compris dans sa position. Jésus est l'autorité suprême sur terre. L'État existe grâce à la permission de Jésus, pas l'inverse. L'État est à la fois serviteur de Dieu et son agent. L'agent, dans ce cas-là, veut dire celui qui agit à la place de. Donc l'État agit à la place de Dieu pour exercer le jugement. Bien sûr, chacun doit être soumis à l'État, sous l'autorité de Dieu. De même, Jésus a institué l'Église locale en donnant le pouvoir des clés pour ouvrir L'Église peut ouvrir ou fermer. Elle peut retirer à une personne son appartenance à l'Église sous l'autorité de la parole de Dieu. L'Église locale n'existe pas grâce à la permission de l'État, mais en vertu de l'autorisation expresse de Jésus-Christ. Et Jésus détient l'impérium. Qu'est-ce qu'une Église locale? Alors, c'est pas facile pour répondre et j'ai trouvé une manière un peu dérivée en énonçant ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas un club. L'Église n'est pas une organisation bénévole où l'adhésion est facultative. Un groupe amical de personnes qui ont un intérêt commun pour des choses religieuses et qui se réunissent une fois par semaine en vue de parler de Dieu. L'Église n'est pas un prestataire de service où le client est roi. L'Église n'est pas un endroit où l'on reçoit une mise au point ou une révision de l'âme en 60 minutes du genre Speedy. Maintenant, qu'est-ce que nous, chrétiens, pensons de l'Église? Les chrétiens pensent qu'ils peuvent fréquenter une Église indéfiniment sans jamais y adhérer, sans jamais y participer. Les chrétiens pensent pouvoir se faire baptiser sans faire partie de l'Église. Les chrétiens prennent la Sainte Cène sans s'associer à l'Église. Les chrétiens voient la Sainte Cène comme une expérience mystique ou mystérieuse, réservée à eux seuls, et non comme une activité pour les membres de l'Église qui prennent part à la vie du corps. Les chrétiens ne partagent pas leur vie en semaine avec d'autres chrétiens. Les chrétiens supposent qu'ils peuvent prendre l'habitude perpétuelle de s'absenter du culte quelques dimanches par mois ou plus. Les chrétiens prennent des décisions majeures, comme déménager, accepter une promotion, choisir un conjoint, etc., sans considérer les effets de ces décisions sur les relations dans l'Église et sans consulter les pasteurs ou d'autres membres sages de l'Église. Les chrétiens achètent des maisons ou louent des appartements sans considérer des facteurs tels que la distance de l'Église et le coût du logement. Ces facteurs sont susceptibles d'affecter leur capacité de servir leur Église. Les chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont en partie responsables à la fois du bien-être spirituel et de la survie des autres membres de leur Église, même de ceux qu'ils n'ont pas rencontrés. Quand quelqu'un pleure, il pleure tout seul. Quand quelqu'un se réjouit, il se réjouit tout seul. Le mal à la base de tous ces symptômes, le mal, je l'avoue, auquel je suis moi aussi en proie, est que nous croyons que nous avons l'autorité de vivre notre vie comme nous l'entendons. Nous greffons l'Église à notre réalité lorsque cela nous convient. Alors, aborder l'origine de l'Église universelle et locale. Dans le livre des actes, il est question du début de l'Église. Et si nous avions le pouvoir de revenir à l'époque et de survoler, de voir ces gens qui sont appelés chrétiens, se sont convertis et qui ensuite se sont regroupés au sein d'une Église, nous pourrions sortir certains éléments. Et vous savez que la première église est l'église de Jérusalem. À propos, vous savez comment on appelle les habitants de Jérusalem? Je ne savais pas il n'y a pas longtemps. Vas-y, envoie. Voilà. Les Hiérosolomitains et les Hiérosolomitaines. Les habitants de Jérusalem. Ce n'est qu'un détail, ça n'a rien à voir avec l'autre. Les premiers chrétiens de l'Église de Jérusalem avaient bien compris à l'époque de l'Église primitive que les chrétiens sans Église n'existaient pas. Le message de la Bible est clair, celui qui se convertit va se faire baptiser et il va rejoindre une Église locale dans laquelle il s'engagera sans compter. Donc trois actions. Se convertir, se faire baptiser et rejoindre une église locale. Alors, tout en survolant ces premiers chrétiens, on aurait pu entendre des expressions telles que pour le pardon des péchés, Jésus est Seigneur. Et ce qui les a amenés à se rallier à un Sauveur et à un Seigneur. Tout a commencé à Jérusalem. Puis il y a eu des difficultés et des chrétiens sont partis essaimés, ont fui en quelque sorte, sont partis aussi essaimés, à droite et à gauche. Et des églises ont été implantées dans des tas d'endroits comme Antioche, Icône, Corinthe, etc. Et en écoutant ces gens de l'église primitive, on voit qu'ils se sont généralement unis à des églises individuelles, locales. Mais ils sont restés interconnectés entre eux, en s'identifiant entre elles et en s'apportant de l'aide. Vous vous rappelez que l'église de Jérusalem est passée par une époque de famine et l'église de Corinthe, ou d'Antioche plutôt, a envoyé des vivres. Les chrétiens de l'église d'Antioche ont envoyé des vivres pour soutenir l'église de Jérusalem. Donc des liens, des églises locales, mais des liens entre elles. Si on peut encore écouter ces chrétiens du début de l'ère chrétienne, ils s'identifient et sont identifiés collectivement comme étant l'Église. Saul, par exemple, il est dit dans la parole, Saul ravageait l'Église. Il n'est pas question qu'il ravageait les chrétiens, il ravageait l'Église. C'était une entité dans laquelle étaient ces chrétiens. Il est question également, on aurait pu entendre, aux oreilles des membres de l'Église. Toujours cette notion d'église. Ils convoquèrent l'église. On n'a pas convoqué un ancien, un pasteur ou un tel, non, c'est l'église. Les chrétiens, toutes ces personnes sont conscientes d'appartenir à un ensemble qui est plus grand qu'elles. D'autre part, les chrétiens possèdent un pouvoir spécial. Il est dit dans 1 Corinthiens qu'ils étaient assemblés avec la puissance de notre Seigneur. Et ils avaient conscience qu'étant regroupés en église, ils formaient davantage une église quand ils étaient assemblés au nom de Jésus, plutôt que dispersés. On peut également, en survolant ces gens-là, s'apercevoir que la première étape de la vie chrétienne était toujours le baptême. Également, les chrétiens sont enjoints à se séparer du monde, à ne pas s'associer formellement avec lui, pour ne pas risquer d'être corrompu. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dieu exige une démarcation claire et lumineuse entre l'Église et le monde, la suivante. Il n'y a rien de flou à propos de cette frontière. Dès le départ, ça a été très clair. On ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. On ne peut pas être du monde et on ne peut pas appartenir au Seigneur. Ça a été très très clair au départ. La vie et l'autorité de l'Église locale façonnent et orientent la vie communautaire de ses membres. Ça veut dire que les us et coutumes de cette Église ont fait que chacun, chaque famille, a modelé sa vie en fonction de la vie communautaire de l'Église et non pas l'inverse. Les dirigeants chrétiens deviennent responsables de troupeaux bien précis. Et Pierre, l'apôtre Pierre, répète aux anciens des églises d'Asie et d'Éphèse de prendre garde aux troupeaux dont ils sont les bergers. Les anciens savent de qui ils sont responsables. Vous voyez l'ordre là-dedans, la discipline. Ne vous mélangez pas avec les autres. Et ensuite, les anciens savent de qui ils sont responsables. Et un dernier point, il y en aurait plein d'autres, hein, tu peux le dire. Les chrétiens sont appelés à se soumettre à des dirigeants bien identifiés. Les chrétiens savent qui honorer. Autrement dit, chacun sait qui est qui dans l'assemblée. Ça veut dire qu'il y a une communion, une relation étonnante, magnifique. Et un dernier point, les chrétiens excluent les faux enseignants, les faux docteurs de leur communion. C'est-à-dire que l'Église se protège. Maintenant, ça c'était l'église d'avant et la nôtre aujourd'hui, notre église aujourd'hui. Si on revient au terme biblique, les églises sont plutôt vues comme des rassemblements de citoyens du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Comme un regroupement d'élus par Dieu, nous sommes élus, nous avons été appelés par Dieu et nous sommes des adorateurs de Dieu. Et qui dit royaume dit roi. Les chrétiens sont rassemblés sous l'autorité supérieure et absolue de leur Seigneur Jésus-Christ. Rien à voir donc avec une quelconque association ou un quelconque club. Les églises sont précieuses. L'église locale est au cœur des projets de Dieu pour le monde. Elle est au cœur de l'Évangile. Les églises locales peuvent aussi être comparées à des ambassades. De même que les ambassades représentent leur pays dans un pays étranger, de même les églises ont reçu la mission de représenter Dieu et son royaume sur la terre. Un chrétien ressemble donc à un homme qui vient frapper aux portes de son ambassade en affirmant qu'il appartient au royaume de Dieu. Bonjour, mon nom est Chrétien. L'officiel de l'ambassade regarde son ordinateur et confirme, comme nous l'avons vu il y a quelque temps dans le psaume 87, « Oui, je vois, vous êtes enregistré comme né à Jérusalem. » Voici votre passeport. Vous êtes né à Jérusalem, vous êtes chrétien. Voilà ce qu'est un membre d'une église. Une personne que son église a officiellement reconnue comme étant chrétienne. Une église va reconnaître chacun d'entre nous comme étant chrétien ou chrétienne. Bien sûr, le chrétien est devenu citoyen au moment de sa conversion, mais le fait de devenir membre de son église locale lui confirme formellement ce statut. Alors, en quoi c'est important tout cela? Toute la Bible montre qu'une ligne de démarcation claire doit exister entre les chrétiens et les non-chrétiens. L'Église est un peuple saint, mis à part, qui doit être composé d'authentiques croyants qui confessent Jésus-Christ comme roi et qui marchent en se soumettant à sa seigneurie. L'enjeu, c'est non seulement la sainteté de l'Église locale, mais aussi la réputation de Jésus-Christ. Si l'Église s'en comporte mal, ceux de l'extérieur vont dire « Cette personne qu'ils adorent, ce Dieu qu'ils prétendent adorer, n'a pas bonne réputation, ne peut pas être pris au sérieux. » Si l'Église donne le passeport chrétien à des non-chrétiens, elle donne une mauvaise image de ce qu'est le christianisme. Si au contraire l'Église établit une liste de membres et n'y accepte que les vrais chrétiens, le monde, en regardant les membres d'une Église, est censé y voir un portrait authentique de l'amour et de la sainteté du Christ. Et ceux qui deviennent membres font passer un message fort. Je suis un membre du royaume de Dieu. Je suis un citoyen du ciel. Ces mesures sont certainement plus importantes chez nous au XXIe siècle qu'au temps de l'Église primitive ou que dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Dans notre contexte, en effet, il est certainement plus difficile de savoir qui est réellement chrétien. Il existe toutes sortes de chrétiens de nom, habillés de valeurs chrétiennes, plutôt qu'habités du véritable message de l'Évangile. Il existe aussi toutes sortes de gens qui entrent dans les églises par curiosité, ou des personnes qui ont adopté un autre évangile, entre guillemets, qui est un doux mélange entre la vérité et le mensonge. Dans un tel contexte, adopter une liste est un précieux garde-fou pour l'Église. Les responsables de l'Église ressemblent à des bergers qui veillent à ce que les loups n'entrent pas dans l'enclos des brebis. Les responsables n'interdisent à personne d'assister au culte. Mais ils empêchent que n'importe qui participe aux assemblées générales, prenne des décisions quant à la direction d'église ou reçoive des responsabilités qui devraient incomber aux membres. Donc une responsabilité importante. Ce qui peut refroidir certains à distinguer ainsi entre membre et non-membre, parce qu'on n'oserait pas faire la différence, lui il est membre, lui ou elle n'est pas membre, c'est la peur de se tromper. À cela, on peut répondre que Jésus-Christ a donné le pouvoir des clés aux responsables d'église. C'est-à-dire que les responsables d'église ont ce pouvoir. Et quelle responsabilité, n'est-ce pas? Dans Matthieu 16, il est écrit, c'est Jésus qui s'adresse à l'apôtre Pierre, qui dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié, ça veut dire sera interdit dans les cieux. Et ce que tu délieras, ce qui sera permis, sur la terre sera délié dans les cieux. » Les responsables d'église ont reçu l'autorité de déclarer qui sur la terre est un citoyen du royaume. Et les responsables ont reçu le pouvoir de faire le tri, de donner le passeport aux vrais chrétiens et de l'ôter à ceux qui avaient fait profession de foi mais qui s'avèrent être de faux chrétiens. Bien sûr, les responsables d'une église peuvent parfois se tromper. Mais le fait qu'ils commettent des erreurs ne leur enlève pas leur mandat. De même que les erreurs des parents ne les déchoient pas de leur paternité. Il faut préciser encore une fois qu'une église ne fait pas de moi un citoyen. Elle ne fait que reconnaître si je suis ou non citoyen, si vous êtes ou non citoyen de l'église. Là encore, comment les responsables d'une église peuvent-ils discipliner un faux croyant et ainsi ôter le mal au milieu de l'église s'ils ne savent pas ce qui est officiellement au milieu de nous? Plus généralement aussi, dans Hébreux 13, il est écrit « Avertis les anciens qu'ils doivent rendre compte du bien des âmes. » Mais de quelles âmes s'agit-il? De celles de tous les visiteurs occasionnels ou celles des membres officiel, reconnu. En résumé, quel est le statut de membre? Eh bien, c'est une relation formelle entre une église et un chrétien, caractérisée par l'affirmation du côté de l'église que telle personne est croyante, et caractérisée par la volonté du côté de la personne de se soumettre à la discipline de l'église. L'Église affirme donc formellement que la profession de foi et le baptême du candidat sont crédibles. Et l'individu déclare solennellement qu'il se soumet à l'amour et au discernement des anciens. En d'autres termes, c'est une sorte de double promesse, comme lors d'un mariage. Pourquoi être aussi sérieux? Parce que l'Église locale est censée être pure et sans tache. Elle est censée représenter le royaume de Dieu et servir son roi, Jésus-Christ. Dernier, en conclusion, dans la première lettre de Jean, il est écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Et n'ayons pas peur de nous lier réellement et durablement les uns aux autres, de nous rendre vulnérables, de nous aimer en action et en vérité. » Je suis ému, mais c'est parfait. À ceci, tous connaîtront que nous sommes disciples de Jésus.